une nouvelle conférence dont je me réjouis en partenariat avec l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons jusqu'ici abordé des sujets variés avec de grands noms des neurosciences, de grands noms de l'histoire, de grands noms de la géographie. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une séance autour d'un grand nom de la philosophie. En effet, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame le professeur Tiercelin, qui va nous inviter à nous questionner sur la liberté de penser, rien que cela. Il est de mon devoir de souligner, chers élèves, la chance que nous avons de pouvoir écouter une philosophe aussi renommée, dont le parcours impressionne tant il est diversifié et brillant. Vous avez, chère madame l'académicienne, marqué les études philosophiques par vos travaux sur Peirce et Berkeley, par les pistes que vous avez ouvertes sur les sentiers ardus de l'épistémologie, de la philosophie, de la pensée et de la connaissance. Vous avez à votre actif de nombreux ouvrages respectés. Je citerai le Ciment des choses, bien sûr, traité de métaphysique publié en 2010. Vous vous intéressez notamment, pour approfondir votre réflexion, à la sémiotique, l'étude des signes et de leur signification. Normalienne, vous devenez madame agrégée de philosophie en 1972. Vous présiderez d'ailleurs le jury de ce prestigieux concours par la suite. Vous complétez votre formation par un DEA de sociologie sous le patronage de Pierre Bourdieu. Puis vous quittez la France en 1977 pour la célèbre faculté de Berkeley. Vous acquérez une renommée considérable par votre analyse de Peirce, encadrée par Jacques Bouvresse. De retour en France en 1979, vous effectuez un doctorat et une thèse d'État, tout en enseignant successivement à Rouen et à Paris. Votre thèse, soutenue en 1990, obtient le prix John Jaffé de la Chancellerie des Universités. Vous devenez ensuite professeur de philosophie à Tours, avant de rejoindre Paris en 1996. Vous avez reçu tous les honneurs dus à une intellectuelle émérite, élu sur la chaire Peirce à New York, membre de l'Institut universitaire de France, professeur au Collège de France, à la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance. Vous êtes décoré de la Légion d'honneur, membre du comité consultatif d'éthique de l'Academia Europaea. Et pour couronner ce parcours, vous êtes entré à l'Académie des sciences morales et politiques, où vous avez succédé à Jean Ménard. Ce qui ressort de votre œuvre avec le plus d'évidence, c'est peut-être, cher professeur, votre amour de la raison, de l'éthique dans le savoir, la pensée, la connaissance, et plus que tout, à mon avis, votre exigence intellectuelle. C'est pourquoi je suis si heureux que vous nous exposiez aujourd'hui votre point de vue sur la liberté de penser. Elle est en effet l'une des valeurs que l'école de la République tente de transmettre à ses enfants au quotidien. En tant que recteur, et nous sommes plusieurs dans la salle à avoir cette belle fonction, je porte bien sûr l'ambition que chaque jeune quitte les bancs de l'école armé d'un bagage qui lui permette non de reproduire des discours et des opinions, mais de réfléchir par lui-même, de se forger son propre point de vue, éclairé sur le monde qui l'entoure. Dans ses pensées, un auteur que je lis presque au quotidien, Marc Aurèle, nous interpelle. Quels attraits peuvent te paraître plus puissants que ceux de la sagesse si tu songes à la force infaillible et à la facilité qu'elle nous procure pour toutes les résolutions de la noble faculté qui nous fait suivre les lois de la raison et qui nous fait réellement connaître les choses. Là réside en effet le véritable enjeu, connaître réellement les choses. Car, comme vous l'avez mentionné récemment dans une tribune à la presse, madame, le savoir est un risque. En transmettant la connaissance, l'on admet la possibilité que nos élèves forment un avis différent du nôtre, entrent en désaccord. On accepte d'être bousculé, peut-être, dans nos convictions. Cela est dans l'ordre des choses, et il est bon que vous soyez capables de le faire, chers élèves. Mais l'on s'expose aussi au danger d'assister au détournement des savoirs, utilisés à mauvais escient, dépassés par les croyances fanatiques, les intérêts personnels, l'opinion, la doxa. C'est pourquoi, afin de former des penseurs véritablement libres, nous devons accompagner la transmission des contenus de celle d'un sens aigu de la responsabilité, leur proposer, sur le modèle de Marc Aurèle, un apprentissage complet de ce qu'il appelait le métier d'homme. Avec le droit à l'éducation vient en effet un devoir que chacun d'entre nous se doit d'observer, celui de conserver en toutes circonstances un sens critique qui nous fasse distinguer le fait de la croyance, la réalité de la doxa, des opinions et des sentiments. Il est nécessaire de les prendre pour ce qu'ils sont, de ne pas les laisser interférer avec notre raisonnement. Il nous faut douter sans cesse, ce doute impitoyable qui pourtant affirme mieux que tout notre être, notre existence. C'est à ce prix que nous devenons des citoyens, capables de construire une vision progressiste de notre société, d'échanger entre nous malgré nos divergences, de dialoguer pour faire naître des conclusions meilleures. La liberté de penser est à la fois un droit individuel et une respiration collective. Elle ne s'apparente en aucun cas au droit de penser n'importe quoi. Elle ne tolère en fait qu'assez peu le relativisme. Elle est au contraire exigeante, contraignante. Elle est cet héritage précieux que nous tirons des Lumières, de ces grands philosophes et penseurs qui nous entourent dans cet amphithéâtre. Elle est l'héritage précieux des Lumières, disais-je, et nous permet de mieux appréhender notre époque, ses crises, ses attaques, qui s'imposent à nous au quotidien. Chers élèves, pour reprendre la célèbre formule, osez savoir, mais savoir avec discernement, avec rigueur. Ayez toujours en tête le sens de ce que vous apprenez, la visée, le pourquoi de vos connaissances, les conséquences futures de vos actes. Gardez surtout l'esprit ouvert, assumez votre liberté de penser avec courage, honnêteté et humilité aussi, car c'est ainsi qu'on la chérit le mieux. Je me réjouis vraiment très sincèrement que vous soyez venus, aussi nombreux qu'il était possible de vous inviter, pour écouter Madame l'académicienne Tiercelin, car je suis persuadé qu'elle nous donnera des clés pour y parvenir. Merci donc à tous pour votre présence et je vous souhaite une excellente conférence.
Merci, merci à tous. Et merci de me faire l'honneur et l'amitié de votre présence et de vos visages. Si être libre implique qu'il soit au moins concevable d'échapper en quelque façon au réseau serré de tel ou tel déterminisme, alors assurément nous sommes tentés de dire tout de go que nous sommes libres de penser. Car ce qui nous distingue d'un chou ou d'un caillou, c'est précisément l'expérience que nous faisons de penser, en tout temps, en tout lieu et à n'importe quoi, aussi naturellement que nous respirons. Mais paradoxalement, et pour la même raison exactement, il serait tout à fait juste aussi de considérer que nous ne sommes pas libres de ne pas penser. Car rien ni personne ne peut nous empêcher de penser, c'est-à-dire de vouloir, de douter, d'affirmer, de nier, de juger ou encore de sentir. La liberté de penser est en ce sens constitutive de notre être. Souvenons-nous de l'expérience du cogito. Descartes est en proie au doute le plus radical. Il ne croit plus à ses sens, il ne sait pas s'il rêve ou s'il est éveillé. Il ne sait plus si deux et deux font quatre, car il se pourrait qu'il fût victime d'un dieu trompeur. Aussi finit-il par appeler à la rescousse un malin génie qui va en une hyperbole radicale lui faire tenir pour faux tout ce en quoi il peut envisager le moindre doute. Or, la seule et unique chose qui résiste et à partir de laquelle il pourra retrouver le monde et les autres, ainsi que les vérités dont il ne savait plus s'il était légitime ou non de les croire, c'est cette évidence qu'il est, qu'il existe. Non pas du tout comme une conséquence du fait qu'il pense, contrairement à ce que pourrait faire accroire cette formulation maladroite du cogito ergo sum, mais qu'il est très exactement dans le temps où il pense. Il ne sait pas encore ce que c'est que cette chose qui pense, cette res cogitans, mais il est sûr en tout cas. Aussi est-ce la première vérité qu'il est. C'est pourquoi il n'a même plus besoin d'ajouter dans les méditations qu'il pense. Il lui suffit d'affirmer « je suis, j'existe, sum existo ». Après quoi, en effet, il faudra se demander « oui, mais pour combien de temps ? Quam diu ?» Et la réponse fuse « pour autant, et pour autant seulement que je pense ». Et on connaît la suite. De cette expérience bien connue, nous pouvons déjà tirer une première leçon. Si penser est ontologiquement inscrit en nous, alors cela explique que tout ce qui se présente à nous comme une atteinte, comme un empiètement à son plein exercice, nous soit tout bonnement intolérable. C'est parce que cette liberté est constitutive de notre être homme, de notre être citoyen aussi, que nous sommes si attachés aux formes sous lesquelles elle s'exprime, aux obstacles qu'elle rencontre, qu'il nous faut pour la préserver à titre individuel et social surmonter. Liberté de penser, et cette fois, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté économique aussi, et bien sûr, liberté politique. Eh bien, dans le peu de temps dont nous disposons, chers amis, et parce que je voudrais être sûre de pouvoir échanger avec vous, je vais simplement, dans ce qui suit, évoquer quelques ressorts de cette liberté de penser, ainsi que les principales causes d'interférence, de désorientation et de domination qui la menacent, avant d'indiquer quelques raisons pour lesquelles nous avons intérêt à ne pas forcément la concevoir à l'aune de notre seule liberté intérieure. Après quoi, je montrerai l'importance que joue pour les citoyens que nous sommes la liberté de penser et donc le sens de son inscription dans la sphère politique et publique. Ce qui me conduira à vous proposer quelques rapides pistes de réflexion sur les conditions les plus favorables, à mon sens, à son plein exercice. Alors commençons donc, si vous le voulez bien, par les ressorts de l'exercice de la liberté de penser et par les principaux obstacles qu'elle rencontre. Vous avez noté que j'ai pris le terme « penser » au sens finalement assez large que lui donne Descartes. Vouloir, douter, affirmer, nier, juger ou encore sentir. Il n'y a pas de raison, en effet, de considérer que penser, c'est se livrer à une activité qui ne concernerait, par exemple, que l'intellect. Il n'est pas anodin, évidemment, que Descartes insiste dans sa définition sur l'importance de la volonté. Car le libre arbitre va pour lui de pair avec la possibilité même de juger, laquelle suppose certes que nous y associons notre entendement, mais un entendement dont on sait que pour Descartes il est fini, là où notre volonté, elle, est infinie. Si nous commettons des erreurs qui entravent donc l'exercice même de la pensée, c'est d'ailleurs parce que nous nous précipitons du fait même de cette infinitude de notre vouloir, alors que notre entendement ne dispose pas encore d'idées suffisamment claires et distinctes. Nos facultés sont parfaites, chacune en son genre. Mais nous sommes responsables de nos erreurs de jugement, car nous allons trop vite et tranchons alors que nous n'avons pas encore réussi à vaincre nos idées confuses et nos préjugés et préventions. Lorsque Spinoza, en revanche, dans le traité de la réforme de l'entendement, se met en quête d'un vrai bien qui lui permette enfin de sortir de l'état de détresse pathologique où l'ont plongé ces faux biens que sont notamment les plaisirs et les honneurs, il n'est pas du tout convaincu pour sa part que le libre arbitre soit autre qu'illusoire et il fait davantage confiance à sa puissance de réflexion. Il lui est aussi difficile que Descartes d'y parvenir, mais il ne voit d'autre issue quant à lui d'en sortir, ce à quoi il parvient, en dépit de maintes rechutes, qu'à la condition de pouvoir, comme il le dit, réfléchir à fond. Il n'empêche, ce qui apparaît dans un cas comme dans l'autre, c'est à quel point l'exercice de la pensée n'a rien d'une promenade de santé, et que si nous voulons sortir de l'état pathologique où nous sommes, nous ne devons pas nous bercer de l'illusion que nous allons suivre un chemin de rose. Mais pourquoi donc cet exercice, qui nous est pourtant en même temps aussi naturel que la respiration, est-il rude à ce point ? Eh bien, pour une raison de fond. Penser, avons-nous dit, c'est entretenir un rapport au monde qui passe nécessairement par ce que nous pouvons appeler un moi, une conscience, une intériorité, à laquelle nous avons, semble-t-il, un accès privilégié, en première personne. Penser, c'est sentir, percevoir, vouloir, mais c'est aussi avoir des idées, des représentations, des croyances, des opinions qui nous rattachent aux autres et au monde et nous dirigent vers eux. C'est pourquoi la pensée a une visée, une intentionnalité. Penser, c'est aussi cette capacité extraordinaire de penser la pensée elle-même. Bref, d'être, comme on le dit parfois, une capacité méta-représentationnelle. Mais arrêtons-nous un peu plus sur ce qui se passe lorsque nous pensons quelque chose, au sens où nous avons une idée, une représentation, ou encore lorsque nous entretenons une croyance. Pourquoi donc, comme en témoignent les expériences respectives de Descartes et de Spinoza, cela n'a-t-il rien d'un exercice apaisé ? Eh bien parce que l'exercice de la pensée suppose la remise en cause de nombre de nos croyances et opinions, à commencer par celles que nous avons reçues dans notre tendre enfance, de notre environnement familial, de nos traditions culturelles. Et ce déracinement, ce dépaysement pourtant nécessaire, si nous ne voulons pas plus exactement avancer dans la vie en prenant des vessies pour des lanternes et en restant prisonniers de nos erreurs, préjugés et superstitions, crée inévitablement de l'inconfort, un épouvantable malaise. Car nous sommes ainsi faits que nous avons horreur de rester en suspens. Or, penser, c'est le plus souvent cela. C'est ce va-et-vient incessant, n'est-ce pas, entre qui nous fait passer d'un état de croyance à un état de doute et de rechef, quand on en sort, à un état de croyance, dès lors que nous avons réussi à la fixer. Cet état de doute, au demeurant, on y vient non pas le plus souvent parce que l'on a trouvé des raisons de douter. Les raisons sont bien souvent inefficaces. Mais parce que l'on a été confronté à telle ou telle expérience récalcitrante, il faut le plus souvent ce choc de la rencontre avec la réalité pour réussir à se remettre en question et à émettre des doutes authentiques et non pas fictifs ou de papier. C'est quasiment mission impossible de se remettre en cause, d'accepter des croyances différentes des nôtres ou même simplement de vouloir croire. C'est pourquoi j'ai toujours eu du mal, je l'avoue, à ne pas voir une forme d'aveuglement volontaire ou d'irénisme, sinon coupable, à tout le moins incompréhensible, lorsque l'on évoque les pouvoirs magiques dont nous doterait une simple éthique de la communication, vantant les vertus du seul dialogue, de la discussion ou du débat, là où il vaudrait mieux apprendre à mieux maîtriser les techniques désormais bien connues de résolution des conflits ou de prise de décision rationnelle en situation d'incertitude. Et pourtant, aussi difficile que cela soit, douter est absolument nécessaire à l'exercice de la liberté de penser. Car c'est seulement ainsi, naturellement, que nous serons alors en mesure de distinguer entre nos croyances celles qui relèvent de purs préjugés, de préférences subjectives, et celles qui tiennent la route. Bref, qui peuvent être vraies, justifiées, à même donc de constituer des connaissances objectives et, par là même, ce qu'on ne dit jamais assez, de nous guérir et de nous tranquilliser. Ne nous lassons pas de lire et de relire à cette fin les magnifiques pages du traité de la réforme de l'entendement de Spinoza comme celles du traité théologico-politique. Ne nous lassons pas de lire et de relire qu'est-ce que les Lumières, où Kant nous explique pourquoi parvenir à la connaissance exige de l'audace. Sapere aude, de prendre un risque, mais un risque qu'il faut courir si nous voulons cesser d'être désorientés et aspirons à l'inverse. Or, comment pourrions-nous ne pas le vouloir, à sortir de l'état de minorité qu'est l'enfance et à nous orienter, enfin adultes, dans la pensée ? Car cela signifie parvenir à la maîtrise de soi, à l'autonomie, et donc, par les règles et lois que nous sommes alors capables de nous donner à nous-mêmes, aux conditions de possibilité même de la liberté, sous la forme que Berlin a qualifiée de liberté positive. Nous retrouvons une idée voisine évidemment chez Rousseau, qui jugeant que la liberté est pleinement réalisée dans la citoyenneté, au sein de cet espace régi par le contrat social, la caractérisera en ces termes bien connus, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Le philosophe politique contemporain, Philippe Pettit, a exprimé récemment une idée voisine en faisant un pas de plus et en observant que, si c'était bien là une composante importante de la liberté, nous devions, pour lui donner toute la robustesse requise, insister aussi sur la nécessaire satisfaction d'autres conditions, celle négative de non-interférence, mais plus encore celle à ses yeux essentielle de non-domination. Une chose en tout cas est acquise, l'exercice de la liberté de penser impose des sacrifices, et notamment que l'on accepte de ne pas penser n'importe quoi, ou uniquement dans les termes de notre bon plaisir, ou de ce que l'on a envie de croire ou de vouloir croire. Bref, la liberté de penser n'implique pas l'absence absolue de limitation. Au contraire, elle exige même des garde-fous et la présence de certaines interférences ou empêchements. Et c'est précisément l'institution politique, dont l'excellence, selon Philippe Pettit, s'illustre moins dans un État acquis au libéralisme que dans un État inspiré par des principes républicains, qui est à même de le garantir. Sans doute nous faut-il donc admettre certaines interférences à notre liberté, mais ce sont, comme il le dit, des interférences non arbitraires. Il n'y a donc pas lieu d'y voir quoi que ce soit de liberticide ou une entreprise délibérée de domination sur nous. C'est même tout le contraire, puisque ce cadre permet à chacun d'assurer de façon optimale l'exercice de sa liberté de penser et d'agir, tant il est vrai que pour ce faire, il suffit, au fond, de respecter des principes communs à tous et reconnus comme tels, même s'il est toujours possible et d'ailleurs souhaitable pour entretenir la bonne santé et la vie démocratique de la communauté publique à laquelle on a choisi d'appartenir, de se livrer à de salutaires exercices de contestation à son endroit. Mais revenons un peu plus sur la nature et les mécanismes de la pensée, dont il faut reconnaître que nous les comprenons mieux aujourd'hui grâce à des recherches en plein essor, en bien des domaines. Ainsi, en philosophie de l'esprit et en philosophie de la connaissance, nous savons mieux, par exemple, analyser les relations entre croyance et connaissance. Nous savons mieux aussi analyser les modes de justification, d'évaluation des croyances, les sens possibles que recouvre le concept de vérité, les outils à déployer pour mieux comprendre les mécanismes du désaccord, ou encore des phénomènes comme celui de la faiblesse de la volonté ou de l'aveuglement volontaire. Mais nous devons aussi ces progrès aux travaux des philosophes sur la métacognition, sur l'épidémiologie des croyances, menés en collaboration étroite avec les sciences cognitives, les neurosciences, ainsi qu'avec l'anthropologie sociale et cognitive. En particulier, nous comprenons mieux pourquoi, comme j'y ai insisté, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'une croyance ou une opinion correspond beaucoup moins à un état où se trouverait notre esprit, bien calé dans notre fort intérieur, qu'à une disposition solidement ancrée en nous à agir de telle ou telle sorte, et sur laquelle, pour cette raison même, nous n'avons la plupart du temps qu'un contrôle partiel. Ce pourquoi, une fois encore, on ne peut douter ou croire à volonté. N'en déplaise à Descartes, qui fait, comme on l'a vu, de la possibilité et de la nécessité du doute le point de départ radical et le fondement de la connaissance, douter n'est pas aussi facile que mentir. D'ailleurs, tout comme Spinoza, Descartes le sait fort bien, qui revient si souvent sur l'importance de la persuasio pour se maintenir dans l'état de doute auquel il est si tenté de renoncer pour retrouver le confort des croyances de son enfance. Car douter n'est pas naturel, tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous défaire de toutes nos croyances. Si en nous levant le matin, nous ne croyons pas que la terre est sous nos pieds, mais nous ne sortirions même pas de notre lit. Et cela vaut d'un nombre impressionnant de nos croyances les plus ordinaires et les plus vitales. En d'autres termes, nous ne pensons jamais à partir d'un point de vue de nulle part, en apesanteur. Et nous pouvons en tirer un autre enseignement. La fragilité même de ce que dans le jargon des philosophes on appelle le volontarisme doxastique doit nous rendre plus sensibles au fait que l'exhortation évidemment nécessaire à l'esprit critique, l'un des principes de l'esprit des Lumières, n'est sans doute pas suffisant. C'est là un point capital que devraient davantage prendre en compte les éducateurs. Comme le rappelait le professeur Jules Vuillemin, dans la belle conférence qu'il avait donnée en 1970 à la Maison de la Culture de Besançon sur la tolérance, je le cite, « à une croyance vivante, il faut plus que la présence intellectuelle de l'idée. Et c'est ce surplus qu'il convient d'examiner, car c'est en lui qu'on trouvera l'origine du fanatisme et de l'intolérance. Or, sa nature apparaîtra plus clairement, poursuivait Vuillemin, si procédant à contrario, nous décrivons le genre de déplaisir que ressent un homme qui abandonne une croyance et se défait d'un préjugé. C'est comme s'il perdait une partie de lui-même. C'est comme si, en plus, le doute par lequel il a vaincu son attachement à des opinions sans fondement créait en lui un malaise en risquant de s'attaquer à d'autres opinions, à d'autres parties de son univers mental. En bref, c'est comme s'il portait atteinte à son propre sentiment de sécurité. Telle est la raison, je souligne, pour laquelle il est difficile de penser par soi-même. L'attachement parfois invincible que nous ressentons pour les idées reçues qui sont devenues nôtres ne se distingue pas de l'amour de soi, en sorte que nous tendons spontanément à rejeter tout ce qui met en question cet amour et à accueillir tout ce qu'il renforce. De là provient le ton passionné des discussions touchant la politique et la religion. On croit critiquer une opinion, on blesse une âme. Ceci explique la difficulté de pratiquer la philosophie critique telle que Descartes la conseille. Car que nous reste-t-il lorsque nous nous dépouillons de toutes les idées auxquelles ne nous attachent que la prévention et la précipitation ? Il nous reste la solitude. C'est d'ailleurs ainsi que Diogène Laërce, vous vous souvenez, décrit le sceptique pyrrhonien qui, à force d'avoir suspendu son jugement sur tout et de n'être plus prêt à s'engager à rien, finit à son tour par décourager tout le monde. Je cite Diogène, « Pyrrhon s'isolait et vivait dans la solitude et n'apparaissait que rarement chez lui. Il était toujours dans le même état, de sorte que si quelqu'un le laissait au milieu d'une conversation, il finissait la conversation tout seul. » Pourtant, ne nous reste-t-il vraiment alors que la solitude ? Il me semble, et c'est le deuxième groupe de remarques que je souhaiterais faire, que l'une des manières de contrer une telle conclusion, c'est peut-être aussi de questionner la manière dont j'ai présenté jusqu'à présent la liberté de penser comme quelque chose qui se ramènerait à une simple forme de liberté intérieure. Une telle présentation n'est-elle pas en effet partielle, voire erronée ? Assurément, l'expérience première que nous faisons de l'exercice de notre liberté de penser, telle qu'elle nous fait notamment accéder à une liberté positive, pleinement réalisée dans l'autonomie, celle-là même qui nous permet, par conséquent, de faire qu'en partant des simples croyances ou opinions qui sont les nôtres, nous soyons capables de parvenir à du savoir, à des connaissances, et donc, ainsi que Platon a tenté de les définir dans le Théétète, à des croyances vraies, justifiées, pourvu de raison, c'est bien cette expérience que nous faisons, de cet accord sur le fait qu'il faut bien nous désengager, nous dépayser, à condition bien sûr que ce dépaysement ne soit que provisoire et non pas systématique et encore moins définitif. Ce qui reviendrait à l'inverse du but recherché, à nous enfoncer dans le scepticisme. Ainsi, et donc à condition de ne pas nous dépouiller de toutes nos croyances, ce qui serait de toute façon un vœu pieux, voire en nous fiant à certaines d'entre elles. Non seulement nous ne risquons absolument pas de rester seuls, mais tout au contraire, nous sommes assurés d'accroître notre puissance d'exister. Et ce, par le partage et l'échange authentique, lequel, comme je vais essayer de vous le montrer, suppose d'ailleurs un peu plus que de savoir pratiquer l'art de la conversation, et de choisir plutôt d'entrer dans ce que le philosophe Wilfried Sellers a appelé l'espace des raisons. Tâchons de comprendre pourquoi. D'abord, comme je l'ai dit, j'ai surtout présenté l'exercice de la liberté de penser comme celui d'une liberté intérieure et donc comme un exercice essentiellement individuel et privé, n'est-ce pas ? Et vous seriez en droit de me rétorquer que c'est là une lecture somme toute partielle, voire partiale. Tel est bien le sens des objections qui ont été adressées notamment à la fin du XIXe siècle par des philosophes comme Ludwig Wittgenstein ou Charles Peirce, Gilbert Ryle, mais aussi Nietzsche, qui ont critiqué cette conception de la pensée au motif qu'elle ferait la part trop belle à la subjectivité, au moi et à la conscience. Or, sans même entrer dans toutes les difficultés qui entourent la question très débattue de la réalité ou non du libre arbitre, N'est-ce pas là sombrer dans ce que le philosophe Gilbert Ryle, dans un ouvrage célèbre, Le concept d'esprit, a appelé le mythe du fantôme dans la machine ? Que nous puissions invoquer l'expérience d'une présence à soi immédiate à laquelle nous aurions un accès privilégié par l'intuition, Descartes, par l'introspection, Locke, soit. Mais d'une part, de quel droit pouvons-nous conclure de ce qui n'est, somme toute, qu'une expérience ? Ce que le philosophe médiéval Dan Scott appelait la saisie du présent comme présent, mais dont il se gardait bien à la différence, par exemple, de saint Augustin, de juger l'autorité suffisante, qu'une intuition a sa valeur de connaissance, ou dirons-nous, en termes savants, à sa valeur épistémique. Pouvons-nous vraiment donner un sens à cette idée d'une connaissance purement intuitive ? Je vous renvoie pour méditer ce point aux auteurs que je viens de citer, mais aussi au magnifique ouvrage de mon regretté maître, Jacques Bouvresse, « Le mythe de l'intériorité ». On peut en tout cas comprendre que certains jugent nécessaire d'exiger de quelqu'un qui prétend penser qu'il en montre au moins certains des effets sensibles et pratiques. Après tout, si pensée réelle il y a, si elle a du sens, il est raisonnable de souhaiter ainsi en juger, tout comme il est somme toute normal de considérer que qui ne dit mot consent ou que quelqu'un s'évalue non à ce qu'il dit ou prétend penser, mais à la conduite publiquement observable que cette pensée lui fait ou non tenir. Mais il y a une deuxième raison, peut-être plus importante encore, pour laquelle nous sommes en droit de nous méfier de cette manière de présenter la liberté de penser à partir du seul concept de liberté intérieure, et sur laquelle, il est vrai, ce sont surtout les philosophes du XXe siècle qui se sont penchés. On peut en effet se demander si ce n'est pas là faire un peu vite l'économie d'une difficulté qui est tout sauf mince, à savoir celle de comprendre comment nous devons au juste concevoir les rapports entre la pensée elle-même et le langage. Nombreux sont les philosophes qui, au XVIIIe siècle, avaient bien sûr amorcé la réflexion, notamment à partir d'une analyse de l'origine du langage. Songeons à Condillac, à Rousseau. Mais jamais avant le XXe siècle, et c'est au cœur même de ce que l'on appelle la philosophie du langage, l'on s'était vraiment attelé à la question de savoir qui, de la pensée ou du langage, a la priorité. Or, si l'on y songe, analyser la liberté de penser uniquement à travers le spectre de la conscience de l'individu revient à passer sous silence la question de savoir s'il peut tout simplement y avoir de la pensée qui se fasse sans des signes. Même quand nous évoquons le dialogue socratique de l'âme avec elle-même, ou que nous disons que nous parlons à notre bonnet, c'est bien de dialogue et de parler, après tout, qu'il s'agit. Et comment diable, du reste, pourrions-nous faire autrement ? C'est si vrai que nous savons fort bien que si nous ne maîtrisons pas le sens des mots, l'art de la parole et du discours, nous sommes totalement démunis. Souvenons-nous de ce magnifique texte d'Anatole France, l'affaire Crinquebille. On y voit un malheureux marchand de quatre saisons accusé à tort d'avoir injurié un agent au motif qu'il aurait crié à ce dernier « mort aux vaches ». Un agent qui, lui-même d'ailleurs, a solidifié, faute de mieux, dans cette formule qui représente à ses yeux la quintessence de l'insulte, et que Crinquebille n'a pas prononcée, l'attitude du malheureux qui refusait de circuler parce qu'il attendait de se voir payer la botte de carottes qu'il venait de vendre. Toute l'affaire montre à quel point c'est principalement l'absence de maîtrise du langage, ou inversement le talent dont on fait montre, qui engendre de l'injustice. Et à quel point aussi on écoute d'abord celui non seulement qui présente bien, qui a pour lui tous les signes de l'autorité, notamment militaire ou judiciaire, mais aussi celui qui parle bien, comme l'avocat au discours duquel Crinquebille ne comprend que goutte. On mesure notamment, d'où l'importance d'y être attentif, si l'on veut donner à chacun à égalité sa chance, à quel point maîtriser le langage, c'est être capable de distinguer, par exemple, la mention et l'usage, de comprendre le rôle crucial du contexte pour la détermination de ce que les mots que l'on emploie veulent dire. Toute chose qui échappe à Crinquebille, ce pourquoi il est finalement tout étonné et encore plus perdu lorsque, allant au sortir de prison de misère en misère et ne voyant finalement d'autre issue que de chercher à retrouver le confort et la propreté du carrelage de son ancienne cellule, avisant un malheureux gendarme qu'il croit insulté en lui disant cette fois pour de vrai « mort aux vaches », il n'attire de la part de ce brave homme que de la commisération. Car non, vraiment, ce ne sont pas des choses à dire. Gare au langage, donc. C'est pourquoi l'école et ses maîtres que nous devons chérir, ici encore, comptent tant pour nous aider à en saisir tous les ressorts et notamment à mieux nous préserver des pièges qu'il nous tend et des pires manipulations qu'il permet. Mais il y a une troisième raison pour laquelle, voyez-vous, il me semble que nous avons intérêt à ne pas concevoir la liberté de penser, ou en tout cas pas exclusivement, ni même prioritairement à l'aune de la liberté intérieure, et c'est celle-ci. Penser, ai-je dit, c'est avoir des idées, se représenter les choses d'une certaine façon et les exprimer. Mais ce qui fait la beauté, comme la force de nos idées, car elle est réelle, c'est le fait qu'elles échappent à un moment donné à celui qui s'est employé à les avoir et à les communiquer, et donc qu'elles acquièrent un caractère non plus privé, mais public. C'est ce que voulait dire le philosophe Gottlob Frege quand il distinguait ce qui est de l'ordre de la représentation, Vorstellung, et ce qui est de l'ordre de la pensée, à proprement parler, Gedanke. La pensée, c'est ce qui échappe et devient irréductible au quidam qui a pu avoir telle ou telle idée, ou se trouver dans tel ou tel état mental, à tel ou tel moment, dans telle ou telle culture ou société. Sans doute a-t-il fallu que le théorème de Pythagore fût l'objet d'une représentation propre à un individu du nom de Pythagore. Mais ce qui fait désormais de ce théorème une pensée, c'est qu'elle reste vraie et objective, quelle qu'ait pu être la représentation du dénommé Pythagore. Et on pourrait dire autant, évidemment, vous comprenez bien, des pensées exprimées depuis des siècles par les livres ou les œuvres de toutes sortes. C'est ce caractère public et donc aussi commun et partageable qui est caractéristique, évidemment, du savoir et dont nous ne mesurons pas assez à quel point il est la condition même de notre liberté tout court. C'est ce que rappelait inlassablement, à la suite des philosophes des Lumières, des penseurs comme Orwell ou Bertrand Russell. La possibilité pour tout un chacun d'accéder par lui-même à des vérités objectives est la condition requise pour pouvoir conduire sa vie et sa pensée à partir de sa propre expérience et de ses propres jugements. C'est la condition de ce que Russell appelait le respect de soi et de ce que la tradition rationaliste des Lumières appelait penser par soi-même. Vous vous souvenez sans doute de ce fameux passage de 1984. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était son commandement ultime et le plus essentiel. Le cœur de Winston défaillit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion aux arguments subtils qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre. Et cependant, c'était lui qui avait raison. Ils avaient tort et il avait raison. Il fallait défendre l'évident, le bêta et le vrai, the obvious, the silly and the true. Les truismes sont vrais, cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas, les pierres sont dures, l'eau est humide et les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la terre. Avec le sentiment qu'il posait un axiome important, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Si cela est accordé, tout le reste suit. » Ce n'est pas par hasard, bien sûr, si Orwell choisit comme exemple de vérité les jugements arithmétiques 2 plus 2 égale 4, mais aussi, vous l'aurez noté, des jugements de perception. Les pierres sont dures. Car ce que ces énoncés ont en partage, c'est de pouvoir être légitimement assumé par tout un chacun, indépendamment de l'accord ou du désaccord de la communauté à laquelle il appartient. Comme on a pu le dire à propos de ce passage, une fois qu'un membre de notre communauté linguistique est devenu compétent dans l'application des concepts appropriés, perceptuels ici ou arithmétiques, vous voyez, ce sont deux types de jugements dont il peut facilement établir individuellement et par lui-même la vérité ou la fausseté. Une fois qu'il a acquis les concepts appropriés et qu'il les a complètement maîtrisés, eh bien ce sont des domaines où il est capable de prononcer un verdict sans s'occuper de ce que devient au sein de sa communauté le consensus les concernant. Quand le verdict concerne par exemple quelque chose que vous êtes le seul à avoir vu Vous avez d'excellentes raisons, a priori, de vous fier davantage à votre propre vision de l'événement qu'à une version contradictoire parue, par exemple, dans le journal. Ce qui me conduit pour finir à un troisième groupe de remarques. Si ce que je viens de dire est correct, alors jusqu'à un certain point, cela n'a aucun sens, sauf pour un Piron, de s'imaginer que penser, ce puisse être penser seul. Penser, c'est penser avec les autres, c'est penser en société. L'homme est un roseau pensant, mais c'est aussi un animal politique. Simplement, c'est bien là aussi que le plus souvent, nous sentons à quel point les conflits et les désaccords sont puissants et tenaces et où les atteintes à notre liberté de penser, sous toutes les formes où elles s'expriment, comme je l'ai dit, liberté de conscience, d'expression, de presse, se font le plus sentir. Mais alors, est-il impossible de dissocier radicalement la liberté de penser, à titre personnel, de son exercice en société, et si l'on ne saurait en conséquence oublier ce que sont et doivent être nos droits, mais aussi nos devoirs, en tant que citoyens, quels pourraient être les moyens les plus efficaces pour éviter les différentes sources de domination que notre liberté de penser risque de devoir affronter, les conditions les plus favorables à la garantie de son plein exercice? Eh bien, il me semble en premier lieu que pour ce faire, nous devons accepter de nous inscrire dans un espace des raisons. Bref, faire nôtre cette idée selon laquelle, comme a pu le dire il y a peu le philosophe Michael Lynch dans ce livre « L'éloge de la raison », lorsqu'il s'agit de démocratie, il en va exactement de même que lorsque nous cherchons à comprendre ce que veut dire, par exemple, connaître quelque chose, ce qui suppose de ne pas nous contenter de produire une description empirique de la situation, mais de nous placer dans l'espace logique des raisons, où il s'agit de justifier et d'être capable de justifier ce que l'on dit. Affirmer que la démocratie est un espace de raison, c'est défendre l'idée que la politique démocratique est elle-même sommée de donner des justifications, de prouver sa légitimité, de donner des raisons et de montrer que l'on agit pour des raisons. Que les désaccords qui existent entre des citoyens doivent se traiter uniquement dans l'arène de la raison et que les arguments invoqués par le pouvoir étatique pour légitimer tel ou tel de ses usages doivent pouvoir être soutenus par des raisons. Et de façon cruciale, que les raisons invoquées sont des raisons de croire ce qui est vrai par opposition à des raison de croire qui gagnera l'élection, nous rendra riches ou donnera le pion à nos ennemis. Bref, penser à la démocratie comme à un espace de raison, c'est considérer que les idéaux d'une politique démocratique exigent de s'engager dans la poursuite rationnelle de la vérité. C'est considérer encore que même si ces raisons sont pratiques et non théoriques, elles n'en restent pas moins des raisons. Si nous devons traiter les autres comme des agents dignes d'un égal respect, alors il nous faut nous engager dans le processus qui consiste à donner et à exiger des raisons de ce que nous devons croire. Et les raisons que nous invoquons, du moins celles que nous invoquons sur la place publique, doivent provenir de méthodes qui ont en elles-mêmes un caractère démocratique. Là où nous ne donnons pas de raison de nos croyances, ou bien là où nous recourons à des méthodes qui sont secrètes et isolées, réservées à quelques-uns, nous risquons non seulement l'incohérence, mais nous risquons purement et simplement de sortir tout bonnement de l'espace démocratique. La deuxième exigence à laquelle nous devons nous efforcer de tendre, c'est celle qui consiste à ne pas nous satisfaire de l'idée, pourtant fortement répondu, que nous devrions, dans l'espace public, non pas viser la vérité, mais nous contenter du consensus. Voilà qui procède certes d'un souci louable, tant il est nécessaire de parvenir à une société apaisée où les désaccords auraient, sinon disparu, du moins trouvé une forme de conciliation raisonnable. C'est la position du philosophe libéral John Rawls, qui préfère adopter une attitude qu'il caractérise d'abstinence épistémique et appelle à un simple consensus des citoyens par recoupement. Mais pourquoi céder aussi vite au découragement? Et pourquoi aussi aisément et rapidement réduire l'un des idéaux majeurs des Lumières, celui de la poursuite inlassable de la vérité par la connaissance, à celui de consensus? Ça ne va pas du tout de soi. Autant il faut tenir pour des biens inaliénables, n'est-ce pas ? La capacité de chacun à raisonner en pleine autonomie, cette si chère liberté de pensée et d'expression, comme le rappelait Kant. Autant il serait absurde d'en conclure trop vite à l'égale vérité des opinions et de radicalement substituer le consensus à la vérité. On juge souvent le premier plus démocratique et l'on prône un pluralisme raisonnable. Les négateurs de la vérité avec un grand V sont prompts à ne voir en elle qu'un point de vue divin émanant de nulle part, voué à l'absolutisme du dogme ou à la seule infaillibilité pontificale. Mais on peut simultanément refuser l'idée que la vérité correspondrait au réel ou reflèterait une parfaite adéquation de notre esprit avec les choses et ne pas tenir la seule cohérence des opinions et l'accord des hommes entre eux pour des critères satisfaisants de la vérité et moins encore pour des gages suffisants d'une société vraiment démocratique. L'histoire est pleine de ces préjugés et autres croyances a priori, mais également de ces erreurs communes si longtemps entretenues à force de crédulité, de ténacité, mais plus encore d'autorité, de domination, n'est-ce pas ? Parvenir à une authentique démocratie d'opinion ne pourra certainement pas se faire dans l'angélisme. Ce serait commettre une double erreur, à mon sens, d'appréciation. Sur la nature de la croyance d'abord, et je crois vous avoir expliqué pourquoi, mais aussi pour une deuxième raison qui est celle-ci. Une méprise tout aussi grave serait en effet de sous-estimer la difficulté d'interprétation du fameux consensus auquel on peut éventuellement parvenir. Combien en effet de consensus extorqués ou plus subtilement acquis par manipulation. Quant à la tyrannie de la majorité qu'évoquait Tocqueville, elle n'est pas non plus toujours, on le sait, un vain mot. Qui assurément voudrait se réclamer de l'intolérance ? Mais si prenez la tolérance ou le politiquement correct, permet d'éviter l'accusation inconfortable de dogmatisme, voire de sectarisme, cela ne met pas systématiquement à l'abri, nous ne le voyons que trop, du relativisme, pire encore, du cynisme qui fréquemment en découle. Or, souvenons-vous de Protagoras, si toutes les opinions se valent, on a tout fait de considérer que rien du tout n'est vrai. Et la fameuse démocratie d'opinion n'est plus qu'un simulacre quand elle ne se résume pas à une vaste opération de parfaite démagogie. Bien souvent, en effet, le pluralisme raisonnable n'est qu'écran de fumée ou ne saurait à tout le moins suffire si nous voulons rester fidèles, comme nous le devons, à l'esprit des Lumières. Sans doute, ces exigences, qu'il serait à mon sens précieux de se donner, ne manqueront-elles pas de donner l'impression d'aller dans le sens d'une défense forcenée de la raison et de privilégier, selon l'imagerie répandue, la froide lumière de la raison à la chaleur du sentiment. Mais ce serait, à mon sens, se méprendre, là encore, sur plusieurs points. D'abord, ce serait en rester à une caricature de la raison, comme celle qu'on a souvent donnée d'elle en France, comme en Europe, faut bien le dire, dans cet âge de l'éclipse ou du déclin de la raison, qu'aura été une bonne partie du XXe siècle, à partir des années 1920, et qui s'appuie davantage, en vérité, sur le concept hegélien d'une raison omnisciente et omnipotente que sur celui bien moins triomphant de l'Aufklärung. Image de la raison comme savoir absolu et dogmatique, puis par extension comme marque de l'arrogance et de la prétention du rationalisme moderne, de la répression froide des puissances du sentiment, de la création, de la vie, et pour finir par le genre de raccourci qu'ont trop longtemps affectionné certains postmodernes français, image de la tyrannie du logos, du conservatisme, du bolchevisme ou du goulag. Bref, une raison qui serait à l'origine de tous les malheurs dont nous aurions souffert naturellement au XXe siècle. Ensuite, ce qui serait tout aussi absurde, c'est que cela reviendrait à présenter la sensibilité comme totalement réfractaire à la raison, et à la réduire purement et simplement à telle ou telle forme mythique de l'intériorité ou encore au domaine de la sensiblerie ou de la schwärmerei. La reconstruction de la raison, dans laquelle nous devons, je crois, résolument nous engager, suppose naturellement, comme je le dis souvent, que penser ne s'oppose pas plus à sentir que sentir ne s'oppose à penser. Souvenons-nous encore de Descartes. Au demeurant, il est tout à fait possible, comme nombre de travaux récents l'ont amplement montré, que nos émotions ne soient pas toutes irrationnelles et qu'elles puissent au contraire contribuer à la vie démocratique, voire intervenir à divers stades du savoir lui-même. Ce pourquoi on peut avoir, comme c'est mon cas, nombre de réserves quant à la valeur républicaine de ce particularisme moral qui sous-tend toutes ces éthiques à visage humain qui envahissent de plus en plus l'espace public, de l'éthique de la reconnaissance aux idéologies du soin et du care. Mais cela n'implique en aucune façon, naturellement, que l'on reste sourd à ce que le philosophe William James appelait les cris des blessés. C'est pourquoi j'aime souvent citer ce mot de Champfort. Il n'est pas vrai, ce qu'a dit Rousseau après Plutarque, que plus on pense, moins on sente. Mais il est vrai que plus on juge, moins on aime. Peu d'hommes vous mettent dans le cas de faire exception à cette règle. Mais j'ajoute toujours alors que Champfort n'a ici que partiellement raison. Car ce n'est qu'à condition de lier étroitement les deux que l'on parviendra à réconcilier les deux sœurs d'Austin. Le cœur ou le sentiment d'une part, la raison d'autre part, les deux seules manières d'aimer, pour reprendre l'autre titre initialement donné par le traducteur de Sense and Sensibility. Bref, que l'on pourra prétendre parvenir à juger sans haïr. Champfort reconnaît du reste, il pense au stoïcien Marc Aurèle, que, je le cite, celui qui veut trop faire dépendre son bonheur de sa raison, qui le soumet à l'examen, qui chicane, pour ainsi dire, ses jouissances et n'admet que des plaisirs délicats, finit par n'en plus avoir. C'est un homme qui, à force de faire garder son matelas, le voit diminuer et finit par coucher sur la dure. C'est un point qu'avait souvent rappelé notre Ernest Renan. Il faut en tout cas être aveugle ou obsédé par les dualismes et les schématismes pour ne pas voir que se mêle toujours à la raison bien comprise une forme ou une autre, sinon de passion, de sentimentalisme. Pour éviter d'avoir une vision schématique de ce qu'implique l'inscription, à mon sens, à privilégier pour garantir la liberté de penser, de s'inscrire donc dans l'espace des raisons, il importe bien sûr encore de ne pas s'imaginer que seuls les goûts et préférences, et non pas les raisons, diffèrent et opposent. Car les raisons de l'un, et ce sont bien des raisons, n'est-ce pas, dont nous parlons, ne sont pas forcément, ni même le plus souvent, les raisons de l'autre. Si la tolérance exige d'être attentif aux différences dans les raisons autant que dans les goûts, qui songerait à nier que les raisons sont toutes légitimes ? Après tout, on peut avoir d'excellentes raisons de préférer le juste au bien, mais de tout aussi excellentes raisons de préférer le bien au juste. Il arrive aussi que nos raisons de croire diffèrent de nos raisons d'agir. À quelles raisons devrons-nous alors accorder la prééminence ? N'est-il pas éthiquement légitime, parfois même, de vouloir croire, en dépit de ce que nous disent les faits, voire contre toute évidence ? Pour ma part, j'en doute. Mais j'admets que l'esprit religieux d'un William James, n'est-ce pas, le porte pour sa part, en ce sens. En tout cas, il importe à chacun d'affronter sereinement la question de savoir au moins si oui ou non les raisons épistémiques de croire doivent toujours l'emporter sur nos raisons pratiques ou s'il n'y a pas dans certains cas, comme on dit, de pieux mensonges. J'ajouterai qu'une plus grande sensibilité à ces nuances devrait aussi nous guider en matière de tolérance religieuse, sans qu'il soit besoin de revenir en quoi que ce soit sur les règles de séparation entre les ordres, telles qu'elles sont fixées par la laïcité de notre belle République, laquelle donne aux croyants comme aux incroyants toute la respiration nécessaire. Mais en suggérant peut-être aux croyants qui soient un peu moins convaincus et aux incroyants qui soient un peu plus compréhensifs, si l'on veut parvenir à les faire moins vivre ensemble, expression que je n'aime pas beaucoup, que coopérer au sein de l'espace commun dessiné par notre République. Relisons tout Condorcet, relisons Charles Renouvier, et pas seulement son manuel républicain de l'homme et du citoyen. Assurément, j'ai bien conscience que préférer la vérité au consensus et définir la vérité dans le terme de ce qui est non pas tant raisonnable que rationnellement acceptable est difficile. Mais c'est sûrement un progrès qui devrait permettre de réaliser l'idéal toujours à reprendre des Lumières, d'un consensus éclairé. Je vois bien aussi
que l'on aurait tort de sous-estimer l'ampleur de la tâche, laquelle va bien au-delà, le plus souvent, de la simple recherche du consensus. En maintes occasions, il s'agit d'abord de clarifier les situations dans lesquelles chacun est, relativement à son voisin, un père épistémique, comme on dit, et où subsiste, malgré cela, entre les protagonistes, des désaccords apparemment insurmontables. Les données dont chacun dispose sont les mêmes. Chacun semble bien à égalité en termes de ses capacités à raisonner, de son empressement sincère à faire preuve d'honnêteté et de bonne foi, et pourtant, le désaccord entre eux persiste. On aura ici reconnu nombre de situations éthiques et politiques de la vie courante qui imposent pourtant des réponses et des décisions de notre part, pour ne rien dire de ce que, dans bien des cas, elles imposent aux politiques et aux législateurs. Quelle attitude préconiser alors ? Faut-il chercher à déterminer, sur la base de la seule vérité objective, qui a finalement tort ou raison, mais au risque de remettre au calende grec toute décision suffisamment instruite ? Car les amis de la vérité objective le savent bien, la convergence, à distinguer du consensus, est un idéal qu'il faut certes viser sans relâche, en se dotant pour ce faire des meilleures méthodes et outils que met à notre dispo la position, la connaissance, et au premier chef, la connaissance scientifique. Mais ils savent aussi que l'esprit vraiment scientifique, précisément, s'accommode mal du scientisme positiviste et de l'idée qu'il y aurait des certitudes absolues et pour toujours acquises. Là où la connaissance va toujours de pair avec le doute sceptique, le provisoire, le faillible, le toujours en droit révisable. C'est pourquoi, du reste, contrairement à une imagerie répandue, les savants, les vrais savants, sont souvent les premiers à émettre des réserves sur la valeur de leurs jugements ou de leurs expertises, au risque de faire les frais de leurs trop grands scrupules. Tant l'opinion est prompte aujourd'hui à confondre raison nécessaire de douter, scepticisme critique, et aveu d'ignorance, scepticisme dogmatique, je ne sais rien. Et en tirer prétexte pour ériger l'indispensable principe de précaution et d'abstinence épistémique en principe absolu d'abstinence pratique. Je crois que c'est là, voyez-vous, qu'est aujourd'hui le plus grand risque, et c'est un risque qui est avec nous, en fait, depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Et c'est ce risque que nous devons avoir le courage d'affronter. Ce risque, bien plus que celui de la religion, c'est celui du scepticisme. C'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté en conclusion de mon livre « Le doute en question ». Je rappelais ces mots du pragmatiste James, qui, dans la signification de la vérité, stigmatisait le scepticisme général, cette attitude mentale vivante qui consiste à refuser de conclure. C'est une torpeur permanente de la volonté qui se renouvelle de façon détaillée en présence de chaque thèse qu'on lui présente tour à tour, et vous ne pouvez pas plus le tuer par la logique que vous ne pouvez tuer l'obstination ou les blagues. C'est pourquoi il est si irritant. Votre sceptique conséquent ne transcrit jamais son scepticisme dans une proposition formelle. Il le choisit simplement comme une habitude. Il nous agace en restant en retrait, quand il pourrait si aisément se joindre à nous pour dire oui. Mais il n'est ni illogique ni stupide. Au contraire, il nous impressionne souvent par sa supériorité intellectuelle. Tel est le scepticisme réel, concluait James, que doivent affronter les rationalistes, et leur logique ne le touche même pas. Mais poursuivait-il, en meilleur défenseur finalement, de ce que j'appellerais une sorte de pragmatisme pluraliste mollasson, que l'on tend aujourd'hui bien plus à célébrer que l'on est prêt à défendre comme on le devrait plutôt coûte que coûte. Les idéaux rationalistes et finalement antiseptiques des Lumières, la logique ne peut davantage tuer le pragmatiste. Certes, mais défendre ces idéaux, c'est en effet suivre plutôt cette deuxième attitude, pragmaticiste et non pragmatiste, d'inspiration persienne, que j'ai préconisé dans Le doute en question pour, sinon vaincre, à tout le moins contourner ce risque permanent de scepticisme qui va de pair avec l'exercice de la réflexion critique et donc de toute pensée. Or, et c'est par là que je voudrais conclure, n'oublions pas trop vite le sens, mais aussi la portée pratique des critiques, et notamment des sceptiques pyrrhoniens, à l'encontre du scepticisme académique d'Arcésilas et de ses successeurs. Un véritable sceptique n'est pas quelqu'un qui prétendrait savoir que l'on ne peut rien savoir. C'est quelqu'un, renchérissait Sextus Empiricus, qui sait mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, ce qui, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, lui permet d'arriver d'abord à la suspension de l'assentiment et après cela à la tranquillité. Aussi, le livre 1 des esquisses pyrrhoniennes, vous vous en souvenez, est-il pour une bonne part un manuel des techniques à utiliser pour s'opposer aux apparences en juxtaposant des considérations telles que nous devons admettre qu'elles sont équipollentes, également balancées de chaque côté de la question. On évite ainsi le dogmatisme négatif qui consisterait à affirmer que la question est sans réponse ou même que la vérité est à jamais cachée. L'élégant pyrrhonien continue donc à chercher, en admettant seulement que la question est toujours ouverte et que tout simplement nous ne savons pas comment y répondre. Aussi peut-il éviter de croire et d'avoir des opinions. Il acquiesce aux apparences et se laisse guider par ses besoins et désirs naturels. Il se conforme aux mœurs et coutumes de sa société et il apprend, comme le médecin Sextus que prisait tant Montaigne, à exercer un art ou un métier. D'où le grand pouvoir de séduction de ce scepticisme, ni optimiste, ni pessimiste, du moins dans sa version antique, et qui permet, comme le disait joliment Pierre Pellegrin, dans la cacophonie des certitudes dogmatiques, de laisser espérer sans promettre, en témoignant d'une connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage, tout en se refusant les moyens de l'établir, en se laissant simplement guider par la modération des affects qui s'imposent à nous. Position séduisante, en effet, car est-ce là en effet autre chose que le bonheur même? Mais la médaille a un revers. En présentant la vie de celui qui n'a aucune croyance comme une vie tranquille et épanouissante, à l'inverse d'autres philosophes de l'Antiquité qui voyaient la poursuite de la vérité comme le moyen par excellence de parvenir à une vie heureuse et la connaissance comme la meilleure voie d'accès au bonheur et à la vie bonne, le pyrrhonien ne pose pas seulement la question de la possibilité de la connaissance, il se pose aussi et surtout la question de sa désirabilité. C'est plus que suggérer que l'absence de trouble, ataraxia, est plus sûrement assurée si on renonce à cette poursuite. Comme le peintre appelle évoqué par Sextus, qui, désespérant de jamais réussir à peindre l'écume de l'animal, jette son éponge sur sa toile, produisant ainsi l'effet escompté. On réaliserait donc plus sûrement le bonheur en abandonnant la poursuite de la connaissance, en jetant l'éponge. Assurément, libre à chacun de jeter au feu livres et papiers, de se résoudre à ne plus jamais renoncer au plaisir de la vie pour l'amour du raisonnement et de la philosophie, et comme nous le disait le bon gros David Hume, de préférer jouer au tric-trac et dîner en bonne compagnie. Mais si l'on veut éviter ce type de scepticisme éthiquement irresponsable, et pourtant aujourd'hui si présent, sans doute convient-il alors de privilégier une forme ou une autre de conciliation. Mais alors, sur quelle base? Eh bien, je crois, assurément, en continuant à prôner simultanément, comme l'ont toujours fait ou presque les philosophes des Lumières, l'exigence de vérité et les vertus épistémique ou intellectuelle et éthique d'humilité, d'écoute, de respect de l'opinion d'autrui. On s'aperçoit d'ailleurs que de telles recommandations sont souvent parfaitement inutiles. Les pouvoirs de manipulation sont certes immenses, mais nous savons aussi, et mieux qu'on ne le pense, rester d'instinct assez prudent, faire le tri entre les vrais et les faux témoignages, repérer les donneurs de leçons, les faux experts, en un mot, les abus d'autorité. De quelque nature qu'ils soient et d'où qu'ils proviennent, nous savons ou percevons naturellement aussi que tous les jugements de valeur ne se valent pas, qu'il est possible, sinon de les justifier, à tout le moins de les évaluer, en commençant par contester, plutôt qu'on ne le fait encore, les fausses dichotomies entre science et non-science, la réduction positiviste de toute connaissance à la seule connaissance scientifique, et l'étanchéité supposée entre faits et valeurs. C'est donc à cet instinct qu'il faut toujours commencer par se fier, et c'est du reste qui rend parfois un peu ridicule les conseils que prétendrait vouloir donner quelque comité d'éthique que ce soit. Mais cela ne signifie pas davantage qu'on ne puisse pas faire mieux que préconiser une réconciliation qui ferait reposer le consensus des hommes sur la seule réunion ou unité des cœurs. Aussi respectable soit-elle, on sait aussi qu'une telle attitude ne convaincra jamais que ceux qui sont au fond déjà convaincus ou qui ont décidé parfois par altruisme ou par simple civisme de l'être. Au demeurant, il est vain de chercher à organiser ou à mathématiser l'âme. Comme le rappelait Robert Musil, elle sait fort bien prendre soin d'elle-même. En revanche, nous pouvons, nous devons même nous employer à réorganiser l'esprit. C'est à cela du reste, et uniquement à cela, que sert l'école. Parier sur la vérité et sur la connaissance objective est une entreprise de longue haleine, souvent périlleuse, et dont on n'est jamais certain qu'elle sera couronnée de succès. Mais c'est une exigence éthique qui donne à la connaissance sa réelle valeur sociale. Être guidé par elle ne suffit certainement pas. Il faut la concrétiser par une recherche inlassable des critères les plus rationnellement acceptables, mais aussi par une instruction, dirais-je, plutôt que par une éducation, de nos facultés tant affectives qu'intellectives. Ce pourquoi, du reste, notre attention doit se porter sur l'éducation scientifique, certes, mais aussi sur l'éducation artistique. C'est à l'éducation de cette sensibilité au vrai qu'il nous faut œuvrer, qui, à défaut de nous donner des certitudes totales ou définitives, saura nous mieux mettre en accord avec la réalité, avec le monde et la société tels qu'ils se donnent à tous, et pas seulement à nous, ou tels que nous voudrions qu'ils soient. C'est le seul moyen de fixer nos croyances et donc de nous disposer vraiment à agir, ainsi que nous l'ont appris les représentants des Lumières. Et il n'est pas d'autre choix possible non plus, si nous voulons pouvoir surmonter le risque toujours présent du fanatisme et de l'obscurantisme.
Merci beaucoup, madame, pour votre excellente leçon. Ma question serait, comment peut-on poser la question, doit-on se la poser, la question de la vérité en anthropologie vis-à-vis de l'ethnocentrisme, etc.
Oui, je vous remercie. J'essaie de comprendre le sens de votre question, parce que si vous posez cette question, c'est bien parce que vous avez... peut-être quelques réticences à concevoir le concept en anthropologie, est-ce que je me trompe ?
Ou bien... C'est plutôt la question de la valeur. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on n'est pas en train d'apposer, je ne sais pas, mais notre propre vision de la vérité sur d'autres sociétés ?
Oui, alors justement, je n'ai pas eu le temps de faire un cours sur ce que c'est que la vérité, mais précisément, là où je parle de vérité, vous comprenez bien que je considère que si on dit que quelque chose est vrai, c'est précisément parce que l'on considère que le vrai ne se réduit pas à ce que l'on tient pour vrai. C'est une distinction absolument cruciale que nous tendons beaucoup à ne pas faire. Et je dois avouer qu'un certain nombre, y compris de grands penseurs français, ne sont pas toujours capables de la faire. C'est une distinction pourtant fondamentale. Ce qui est vrai est une chose, ce que l'on tient pour vrai, et donc la représentation que l'on se fait de ce qui est vrai, n'est-ce pas, est totalement différent. Ce qui est vrai, c'est ce qui résiste à ce que l'on tient pour vrai. C'était le sens de ce que j'ai dit, par exemple, en prenant la question du théorème de Pythagore. Vous voyez la différence entre la représentation et la pensée. Pourquoi est-ce que 2 plus 2 font 4 ? C'est parce que, quelle que soit la manière dont vous vous représentez la chose, c'est quelque chose qui à un moment donné, ne dépend plus de ce que vous teniez cette vérité pour vraie. Elle l'est indépendamment du fait que vous la teniez pour vraie. Vous voyez ? Donc il y a une sorte de résistance du vrai à ce que l'on tient pour tel, dont on doit pouvoir évidemment montrer comment on l'établit. Et là, il y a évidemment des critères d'établissement de la vérité qui sont donnés, par exemple, et pas seulement par la connaissance scientifique. Vous avez besoin d'une théorie très précise de ce que c'est qu'une raison de poser tel ou tel énoncé, de ce que c'est qu'une assertion justifiée. Dans le cas de la connaissance scientifique, comme vous le savez, il faut que vous ayez un certain nombre de critères, moins de vérification, de falsification de vos énoncés. Vous devez tenir compte des faits objectifs, de ce qu'on appelle dans le jargon de l'evidence, vous voyez, d'être aussi très au fait d'un certain nombre de critères internes ou externes de la justification. Ce sont justement des travaux extrêmement importants qui ont énormément progressé au XXe siècle chez les philosophes de la connaissance, comptant souvent à ne pas regarder d'assez près, me semble-t-il, mais qui permettent d'éviter précisément ce genre de confusion élémentaire, mais que l'on fait en permanence, vous voyez. La connaissance, ça n'est pas simplement quelque chose qui relève du pouvoir.
Merci, voilà. Madame.
Si vous permettez que je termine, j'ai même essayé de montrer que c'est complètement le contraire, en citant le passage d'Orwell, vous voyez. C'est le contraire, ce qui me prémunit de toutes les possibilités d'atteinte du pouvoir. Est-ce que vous comprenez ? De toutes les puissances qui sont nombreuses, de manipulation dont nous faisons l'objet. Parce que nous avons été capables, justement, de comprendre pourquoi c'est vrai. Vous voyez ? Et que ça ne dépend pas de nous.
Bonjour, madame. Merci pour cette conférence. J'aimerais vous demander, on a beaucoup parlé de la pensée en elle-même, mais est-ce que l'absence de pensée, est-ce qu'elle ne pourrait pas être une forme de liberté et de libération face aux tourments en apportant une paix intérieure et un vide dans l'esprit ?
Bien, alors si je comprends... J'espère ne pas me tromper, vous me direz si je me trompe. Si je comprends votre question, je pense que ce sur quoi vous souhaitez mettre l'accent, c'est sur le fait de ce qu'on appelle, au fond, une pensée qui serait beaucoup moins définie, comme je l'ai fait, comme une pensée de l'ordre de la méditation. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire quelque chose qui suppose, en effet, qu'au fond, on fasse le vide, on soit dans une espèce de... Bon. Lorsque j'ai parlé à la fin de l'exposé de l'ataraxie, de l'absence de trouble, vous voyez ?
Oui.
C'est un peu à ça que j'ai, c'est pour ça que j'évoquais. Alors je sais qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui, et ça a toujours été le cas dans l'histoire au moment où nous traversions des époques troublées, repensez à la période hellénistique, voyez, où en effet on est tenté de se replier sur soi et de considérer que le salut va venir précisément de ce que l'on fait le vide. Bon, alors faire le vide, arriver à l'absence de trouble, ça peut se faire par différents moyens. Il y a des gens qui font un argent extraordinaire en ce moment pour y parvenir. Il y a des coachs. Bon, je ne préfère ne pas m'apesantir. Voilà, vous voyez ? Bon, alors... Il ne s'agit pas pour moi de contester l'efficacité de ce genre de démarche. Après tout, pourquoi chacun a le droit, s'il le veut, de payer un coach, de pratiquer la méditation, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais enfin bon. D'aller voir une cartomancienne. Ou de s'envoyer en l'air en fumant telle ou telle substance, etc. Pourquoi pas ? Vous comprenez bien que ce que j'ai essayé de dire ici, c'est qu'en réalité, ce qui est constitutif de notre humanité, et à quoi, en un sens, on ne peut pas échapper, sauf si on veut vivre en effet comme un légume, ou même pas comme un légume, enfin bon, je sais pas, comme un caillou. On ne peut pas ne pas penser. Donc la méditation, c'est bien. Le problème, c'est que c'est même pas sûr que ce soit si facile que ça. Vous voyez ? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais l'absence de troubles, pourquoi pas ? J'ai du mal à croire qu'on y parvienne longtemps.
Oui, bonjour madame, j'avais une question. Si la liberté de penser doit prendre place dans une sphère publique autour d'un partage avec autrui, est-ce que nous faisons face alors à peut-être une difficulté essentielle dans la mesure où le langage qui est constitué de mots finis ne peut pas traduire parfaitement toutes les nuances infinies de nos pensées ?
Oui, je vous remercie. En réalité, je ne crois pas à cette fable.
D'accord.
pas plus que je ne crois aux fameux ineffables, etc. Je pense, c'est quelque chose que Noam Chomsky, d'ailleurs, avait superbement montré, mais même avant lui, Descartes ou Géraud de Cordemois, au XVIIe siècle, qui s'étonnait de ce qu'avec un nombre aussi petit de mots, on arrive à développer un éventail de pensées absolument extraordinaire. Vous voyez, c'est qu'en fait, avec si peu de choses, on dit, on exprime quantité de choses. En revanche, je pense que ce sur quoi vous mettez l'accent, et c'est aussi quelque chose, vous voyez, que j'ai voulu souligner, c'est que très souvent, c'est pas du tout l'impuissance du langage à exprimer la pensée qui est en cause. C'est plutôt l'insuffisante maîtrise que nous avons du langage lui-même, qui fait que nous sommes un peu, infirmes, alors que nous disposons pourtant, grâce au langage, d'outils absolument extraordinaires pour faire passer justement ce que nous pensons. Vous voyez ? Et ça, j'y insiste beaucoup parce que c'est tellement important. L'éducation du langage, le fait d'apprendre à bien parler sa langue, vous voyez, de choisir ses mots, son vocabulaire. Vous voyez, il faut quasiment, presque tous les jours, il faut lire une page du Littré, enfin, ou une page de Chateaubriand, comme vous préférez.
Bonjour madame, merci beaucoup pour vos mots. Ma question porterait sur la notion de raison dans la liberté de penser. Oui. La raison serait-elle une nécessité qui engendrerait un choix, mais un choix qui entraînerait donc un jugement de valeur de la raison même, mais donc aussi de la liberté qu'elle recherche ?
Il me semble que il y a deux choses différentes, au moins dans votre question. Oui. La raison implique un choix. Vous avez noté que j'ai eu quand même une conception extrêmement, j'espère en tout cas, nuancée et complexe de ce que je mets sous le mot raison, n'est-ce pas ? Bon. En revanche, le mot penser peut permettre, au fond, de naviguer à travers un certain nombre de concepts. Mais que la raison implique des choix, disiez-vous ? Oui, mais c'est, vous voyez, c'est assurément. Mais vous voyez, ce ne peut être que justement au terme d'un très long parcours dans lequel notre faculté de raisonner est extrêmement importante et cruciale, au cours duquel nous faisons intervenir toute une série d'éléments pour nous éclairer afin de mieux voir quelles décisions nous devons prendre, à quoi nous pouvons ou non consentir, ce que nous devons préférer, choisir, etc. Vous voyez ? Voilà. Donc, je ne comprends pas, mais peut-être me direz-vous, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire en termes de jugement de valeur. Qu'est-ce que vous mettez là-dessous ?
C'était par rapport à la nécessité dans la raison qui peut être vue comme une nécessité. C'est-à-dire que pour la liberté, on va la rechercher parce qu'on en aura besoin, mais aussi parce qu'on la parce que c'est une volonté qui justement s'affranchit de cette nécessité. On la possède déjà, mais on va vouloir l'approfondir.
Oui.
Et du coup, on va porter un jugement qui sera donc une valeur sur cette liberté qui va être autre et différente de celle qu'on aurait déjà pu posséder.
Oui, alors si je ne m'abuse, vous me direz si je me trompe, est-ce que vous faites référence là à des questions très classiques qui ont trait précisément aux relations entre ce qu'on appelle le libre arbitre et le déterminisme, et à des questions telles que les pose par exemple Leibniz sur la raison nécessitante ou la raison qui permet malgré tout, même si vous êtes, vous actez le fait que vous êtes dans un univers déterministe, ou la raison nécessitante ou qui vous incline d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence, à ça que vous pensez ?
Oui, tout à fait.
Je voudrais être sûre de ne pas me méprendre sur le sens de votre question.
C'est tout à fait, j'aimerais bien que vous m'éclairiez, s'il vous plaît.
Voilà, c'est ça ? Bon. Et pour vous, quel serait... Ce que j'aimerais plutôt, c'est vous entendre, vous. Comment est-ce que vous régleriez la question, la difficulté ? Il y a une difficulté, effectivement, qui est celle dont j'ai parlé au début, mais qui tient justement à la question de savoir si notre libre arbitre est réel ou pas. Je me permets de vous indiquer, j'ai fait un colloque il y a 3 ans, je crois, au Collège de France sur le libre arbitre. Vous pouvez trouver sur le site de ma chaire toutes les communications et les vidéos, si ça vous intéresse. C'est effectivement un sujet très difficile et sur lequel il y a d'ailleurs des réflexions importantes qui sont faites aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une question. Est-ce que finalement Spinoza pensait que c'était une illusion, n'est-ce pas ? Bon. Leibniz, lui, considère qu'on peut parfaitement essayer de nuancer la question. Mais vous, comment est-ce que vous verriez les choses ? Dites-moi.
Je pense que la liberté n'est pas... Dans différentes caractéristiques, quand elle va être véritablement définie avec de différentes manières, je ne la vois pas comme une nécessité. C'est plus comme pas une surface, mais des rajouts, des additions.
Oui.
Et ça serait plutôt la source de justement ce questionnement et la source qui permettrait de rajouter et qui de s'augmenter en fait. Mais je l'ai pas encore trouvé, donc.
Oui. Mais vous êtes sur la bonne voie. Oui, je sais pas. C'est une question très très difficile. Mais ce que j'ai essayé de dire, par exemple, parlons bien trop rapidement de la théorie de la liberté, par exemple du philosophe contemporain que nous venons d'accueillir comme correspondant d'ailleurs à l'Institut, Philippe Petit, sur la liberté comme non-interférence, vous voyez, qu'il distingue de la liberté comme non-domination. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas éviter certaines interférences à notre liberté, tout simplement parce que la liberté suppose un minimum de limitation, vous voyez ? Mais il peut y avoir des interférences qui ne sont pas arbitraires, vous voyez ? Et c'est ça l'essentiel. En revanche, ce qui pose beaucoup plus problématique, c'est quand notre liberté se voit menacée parce que nous sommes la proie de gens qui nous dominent. Ça, c'est... et qui nous manipulent, etc. Et donc, les abus de pouvoir, ça existe, n'est-ce pas ? Et ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la meilleure manière de se prémunir des abus de pouvoir et de la domination de tel ou tel sur nous, c'est justement la résistance que nous offre vous voyez, notre capacité de justifier, de raisonner, d'argumenter, et pas seulement de débattre, vous voyez, ou de converser. Je crois qu'il faut être beaucoup plus conquérant. Et la situation démocratique impose que nous soyons très armés sur le plan et des arguments, et des faits que nous invoquons, des justifications que nous donnons à nos assertions, et des justifications aussi que nous devons demander aux autorités qui nous gouvernent. Nous devons leur demander des comptes. Tu me dis ça, mais j'aimerais être sûre que c'est bien justifié. Voilà, c'est l'exercice normal de la vie démocratique, n'est-ce pas ? La justification, elle doit se faire dans les deux sens, hein, de celui qui est le citoyen et du pouvoir auquel le citoyen consent à obéir. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important, cette idée d'un espace des raisons. C'est réciproque, vous voyez ?
Bonjour madame.
Oui.
Merci de nous avoir partagé votre savoir. Et je voudrais poser une question. De ce que j'ai compris, le savoir et la connaissance, ce serait une façon d'acquérir la liberté. Et alors, est-ce que le savoir, ce serait un droit ou ce serait plutôt un devoir de l'acquérir ?
C'est une très très bonne question que vous posez là. C'est vraiment les deux, quoi. Bon. Alors, je veux dire que, mais il est évident que ça ne peut devenir un devoir que si c'est un droit que tout le monde a en partage. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas reprocher à un ignorant son ignorance si on n'a pas mis à sa disposition les instruments nécessaires pour qu'ils sortent de cet état d'ignorance. Que vous comprenez ? Voilà, et c'est pour ça qu'il est tellement important que l'école soit obligatoire, certes, mais aussi, parce qu'obligatoire, eh bien, publique et gratuite. Vous voyez ? Mais à partir du moment où l'école est gratuite et où l'école est le lieu par excellence qui vous permet justement de sortir de l'état d'ignorance, de vaincre vos préjugés, vos superstitions, etc. Alors, à un moment donné, comme j'ai essayé de le dire, je pense que notre obligation, pas seulement à titre individuel, mais à titre aussi de citoyen, eh bien, c'est de nous instruire, de continuer à nous instruire. Et cette obligation me paraît tellement importante aujourd'hui qu'il me semble qu'un des vices de l'époque, je crois vraiment, c'est ce que disait souvent mon maître Jacques Bouvresse, une forme d'insensibilité au vrai. Vous voyez ? Voilà. Et ce qui explique d'ailleurs qu'on a pu le voir à l'œuvre dans tout ce qu'on a appelé les phénomènes de fake news, de faits alternatifs, de bullshit, de... Vous voyez ? Voilà. On en a vu des... On en a vu des illustrations parfaitement claires ces dernières années dans le monde. Le fait que non seulement on soit insensible au vrai, mais qu'on se fiche pas mal, non seulement de la vérité, mais du fait que ce qu'on dise soit faux. La différence même entre, si vous voulez, ce qui est vrai ou ce qui est faux n'importe plus. Voire on se glorifie d'être dans les faits alternatifs, dans le bullshit et dans le mensonge. Alors là, à partir du moment où on assiste à des phénomènes tels que cela, en effet, il est urgent de résister. Et l'attitude pyrrhonienne qui consisterait à dire « Ah bah oui, mais finalement, on ne peut jamais savoir si c'est vrai ou si c'est faux, donc après tout, on suspend notre jugement », je pense que nous ne pouvons... Il est irresponsable de la tenir. Mais ça, c'est ma propre position.
Bonjour. Je suis là. Là, ici.
Oui.
Désolée. Lorsque nous mentons, nous cachons volontairement la vérité. Et lorsque nous doutons, nous considérons si l'on part de la pensée de Descartes, que tout est faux, mis à part notre conscience elle-même. Ces deux principes sont étroitement liés. Alors pourquoi considérez-vous le doute comme moins naturel que le fait de mentir ?
Alors, je vous remercie. Ce que j'ai essayé de faire comprendre... Quand je dis que Descartes fait comme si douter était aussi facile que mentir, la formule est de Charles Peirce, qui critique justement le doute radical cartésien, parce qu'il a analysé de très très près justement ce que j'ai appelé les mécanismes de la croyance. Vous voyez, je ne parle pas seulement de la croyance religieuse ou politique, n'est-ce pas, mais de la croyance, c'est-à-dire de l'opinion que vous tenez, la doxa, sur quelque chose, de l'idée que vous vous faites de quelque chose. Hein, vous croyez qu'il y a une table en face de vous, par exemple, vous voyez. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je dis que douter n'est pas naturel? Eh bien, précisément parce que, si vous y songez, vous êtes obligé, c'est quasiment insurmontable, même si Descartes, évidemment, à la différence du sceptique, comme on sait, entreprend son opération de doute de façon, comme on dit, heuristique, ou voilà, il n'empêche, vous voyez, même concevoir qu'il puisse y avoir une mise entre parenthèses, fût-elle provisoire, de toutes nos croyances. Et il montre bien à quel point c'est d'ailleurs difficile, et quasiment mission impossible. C'est peut-être s'illusionner sur quelque chose qui est très important et sur laquelle justement des auteurs comme Peirce et Wittgenstein ont mis l'accent. C'est-à-dire que pendant des siècles, on s'est surtout interrogé en philosophie sur les conditions de possibilité de la connaissance. Mais on s'est assez peu interrogé, en fond, sur les conditions de possibilité du doute lui-même. Or, réfléchissez, là je suis là, vous voyez, vous êtes là assis sur votre chaise. Vous imaginez toutes les choses que vous devez savoir et admettre que vous savez pour être là. Il faut que vous croyiez, comme je l'ai dit, au fait que la Terre est sous vos pieds, qu'il y a du monde autour de vous. Vous voyez, ça, que la journée va continuer, que le soleil va se coucher ce soir et se lever le matin. Or, en toute rigueur, vous ne le savez pas. Vous avez parfaitement d'excellentes raisons objectives d'en douter. C'est tout le problème de la vérité scientifique, si vous voulez, de la connaissance objective, problème par exemple, de la valeur du raisonnement inductif, de la justification de l'induction, etc. Vous ne pouvez pas le savoir de façon totalement sûr. Il n'y a pas d'infaillibilité. Vous voyez ? Et supposer que vous puissiez douter de tout, c'est quelque chose, tout simplement, qui est réellement artificiel, quoi. Vous, parce que vous partez toujours minimalement de certaines croyances. Alors pourquoi ne pas en prendre acte ? Et simplement vous dire que l'important, c'est de voir parmi ces croyances qui sont les vôtres, lesquelles sont fondées ou non. Vous comprenez ? Autrement dit. Et ça veut dire qu'il y a une autre idée là-dedans à laquelle, je pense, il faut beaucoup réfléchir. Très souvent, la personne qui s'intéresse sur les conditions de possibilité de la connaissance, elle s'intéresse à des questions sur, pas seulement de source ou d'origine de nos connaissances. Bon, si on est empiriste, c'est ce qu'on va essayer de faire, n'est-ce pas ? D'où viennent nos connaissances, etc. Mais aussi des questions de fondement et de principe. Et c'est bien ce que fait Descartes. Il cherche des principes premiers et assurés. Est-ce qu'on est vraiment obligé de penser les choses ainsi ? Et je dirais que ça a même aussi, je dirais, un sens un peu politique, ce que je dis. Je pense qu'il est beaucoup plus important d'aller de l'avant. Et donc de chercher, plutôt que de chercher des fondements ou des premiers principes, et c'est pourtant une métaphysicienne qui vous le dit, mais c'est tellement difficile de trouver des premiers principes. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Et c'est notre boulot. Bon. Mais je crois que très souvent, cette recherche des premiers principes, cette recherche des fondements, ou cette recherche de l'origine ou de nos origines, fait passer un peu trop au second plan, ce qui, à mon sens, compte, c'est-à-dire, puisque nous sommes là, tels que nous sommes, avec nos croyances, bien fondées ou pas bien fondées, mais au fond, est-ce que c'est ça qui compte ? Est-ce que ce n'est pas surtout comment nous allons aller de l'avant et donc justifier les croyances qui sont les nôtres, voire lesquelles sont vraies, sont pas vraies, sont dotées de bonnes ou de pas bonnes raisons, vous voyez ? Finalement, c'est la démarche scientifique. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, on essaie de progresser, d'avancer, en justifiant un petit peu mieux les choses d'où l'on part. Vous voyez ? Et j'ai tendance à penser que peut-être que si nous nous soucions un petit peu plus de regarder les choses de cette manière, nous progresserions un peu mieux et nous éviterions un certain nombre de faux problèmes qui tendent un peu à complètement nous envahir, vous voyez ? Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis assez claire, mais voilà, je pense qu'il faut essayer d'aller regarder de l'avant, pas trop revenir sur...
Bonjour madame. Alors si je ne me méprends pas...
On prend une dernière question. Ah, merci de la poser.
Très bien, pas de problème. Alors si je ne me méprends pas, vous avez parlé de la liberté de penser comme quelque chose d'extérieur. Mais n'y aurait-il pas un problème, puisque cela n'impliquerait-il pas que quelqu'un qui ne peut pas communiquer ne pourrait pas penser ? Et si on prend l'exemple...
Excusez-moi, j'ai pas... vous pouvez rappeler votre exemple. Quelqu'un qui ne pourrait pas...
Ça n'impliquerait-il pas que quelqu'un qui ne peut pas communiquer avec l'autre, qui ne peut pas utiliser le langage, ne peut pas penser ? Je prendrai l'exemple de l'enfant sauvage, oui. Puisqu'il pouvait penser avant même de pouvoir communiquer avec l'autre, et c'est plutôt une validation du fait qu'il pouvait penser précédemment. Merci.
Oui. Je vous remercie. Oui, mais bon, lorsque j'ai évoqué la question de l'extériorité de la pensée, si vous voulez, ce que j'ai voulu dire précisément, c'est que ça irait plutôt dans le sens de ce que vous me dites, c'est que on a tendance à dire que quelqu'un qui n'a pas, ne pense pas en son fort intérieur, si vous voulez, et quelqu'un qui ne pense pas vraiment. Bon. Or, j'ai tendance à dire qu'il y a peut-être une illusion dans le fait de considérer que les seules modalités même d'expression de la pensée se passent de cette façon. Je ne nie pas du tout qu'elle n'existerait pas. Je ne vais pas aussi loin que certains qui disent que c'est une pure mythologie, une pure illusion. Bon. Mais je pense que la manière dont la pensée... Ce pourquoi un certain nombre d'auteurs, par exemple Condillac, que vous voyez, qui a beaucoup réfléchi justement sur le langage des signes et des enfants sauvages ou des gens comme au XVIIIe siècle, ce sont des questions qui ont passionné, si vous voulez, essaie de voir comment, alors même que l'on est en présence d'individus qui ne maîtriseraient pas le langage ordinaire, mais seraient capables de se servir de gestes, vous voyez, d'avoir toute une gestuelle, une façon de communiquer par le langage des signes, mais aussi des gestes, n'est-ce pas, des mimiques, pourraient parfaitement entrer en relation avec leurs congénères. Donc, vous voyez, j'espère que vous ne m'avez pas mal comprise. Je n'ai pas du tout dit que la seule maîtrise nécessaire de la pensée était l'usage du langage au sens propositionnel du terme. Mais beaucoup plus généralement, j'ai d'ailleurs consacré mon cours de cette année au Collège de France à cette question, à tout l'arsenal sémiotique dont nous disposons, qui dépasse amplement justement le langage propositionnel, vous voyez, et qui consiste en la façon dont nous réussissons éventuellement à manipuler des signes de toutes sortes, voyez, des gestuels. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation.